message de ma belle-fille qui me faisait entendre un moment du culte du soir, ou en tout cas du moment du coucher des enfants. Et j'entendais la voix de mon petit-fils, Noam, qui annonçait le Notre Père. Et j'ai trouvé ça tellement touchant que je suis resté avec ce Notre Père dans l'oreille. Alors j'ai apporté une pensée lors de la réunion de prière de mercredi autour de cela. Et puis, dans la continuité, je me suis dit, allons-y, reprenons le Notre Père. Et j'avais envie de relire avec vous ce passage de l'Évangile, à la fois de Luc, Luc 11, on prendra les deux passages qui mentionnent ce texte, Luc 11, chapitre 11, donc verset 1, où il est dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Et puis, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, nous pouvons relire la manière dont Matthieu relate ce passage à partir, du verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » On connaît tous cette prière quasiment par cœur. Je suis sûr que si je la commençais, vous continueriez sans aucun problème. Dans les réunions œcuméniques, on a ce temps de prière souvent où nous prions ensemble. Et puis, plutôt que d'être dans la prière spontanée, puis d'être aussi dans une prière commune, catholique, réformée, apostolique, on prie le Notre Père. Alors, c'est une prière qui est connue. L'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc nous donnent deux textes légèrement différents, un plus court chez Luc, un plus long chez Matthieu, deux textes qui nous sont transmis pour nous dire comment Christ a orienté en tout cas le contenu de la prière de l'homme vers Dieu. La première, l'évangile de Luc, nous parle d'un disciple qui demande à Jésus, il n'est pas nommé, on ne sait pas qui il est, mais il demande à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. On est dans du comme. Apprends-nous à faire comme. Puis l'évangile de Matthieu, lui, s'inscrit davantage dans un discours, un des plus longs discours de l'évangile. On est dans une forme très particulière qui est la forme judaïque. Matthieu s'adresse aux Juifs. Et les Juifs ont l'habitude de cela, vous savez, de très longues questions avec de très longues réponses. On est dans le discours traditionnel des yeshivas. Vous savez, vous avez un rabbin, puis il y a plein d'élèves qui posent des questions. Et dans l'évangile de Matthieu, on a cela, un très long discours avec plusieurs questions. Et à l'intérieur, il y a ensuite les réponses, comme un rabbin répond à ses élèves. Eh bien, Jésus répondait de la même manière, parce que Matthieu voulait s'adresser au peuple d'Israël aux Juifs en leur présentant le Christ et en leur donnant une forme qui leur corresponde. Luc s'adresse davantage aux païens, donc il introduit ce texte-là avec ce disciple qui dit « Apprends-nous à prier ». On a deux prières différentes. Alors, il y a une petite différence, c'est que le texte du Notre Père, qui est dans Matthieu, est un peu plus long et notamment comprend une doxologie, c'est-à-dire une fin qui célèbre Dieu et qui rend gloire à Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, alors qu'on ne l'a pas dans l'évangile de Luc. Depuis le XXe siècle, on a tendance à considérer que cette doxologie a été supprimée des évangiles traduits en français. Il y a eu une longue polémique là-dessus, pourquoi il y a dans une prière et pas dans l'autre. Et puis, en connaissant un peu mieux les textes liturgiques juifs, eh bien, on s'aperçoit que Christ a certainement prononcé cette doxologie parce que c'était une formule très courante dans les prières juives de terminer par un hymne à la gloire de Dieu. Alors, c'est un texte que nous connaissons. Moi, j'ai relu le texte en traduction, mais quasiment littérale grecque, qui donne quelque chose de beaucoup plus resserré, mais qui laisse apparaître aussi un sens qui peut nous toucher, ou en tout cas nous ouvrir les yeux sur autre chose. En grec, si on le traduisait littéralement en français sans faire de fioritures, on dirait « Père à nous qui es aux cieux, sois sanctifié le nom de toi, vienne le règne de toi, accomplis le vouloir de toi, comme au ciel, ainsi sur la terre. Le pain du nous, suressentiel, donne-nous aujourd'hui. Remets les dettes de nous, comme nous avons remis aux débiteurs de nous. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Ça paraît, quand on le relit comme ça, à sec, en traduction littérale, un peu surprenant. Et en même temps, on voit se dégager deux parties. Une première partie, que sont les quatre premiers versets, et où le mot qui ressort, c'est « de toi ». De toi. Sanctifier le nom de toi, vienne le règne de toi, accompli soit le vouloir de toi. Et puis cette transition, ce qui est au ciel, eh bien que ce soit pareil sur la terre. Et puis ensuite, il y a le pain de nous. Donne-nous aujourd'hui les dettes de nous, les débiteurs de nous, et ne nous laisse pas entrer. Et là, on est sur la terre et sur ce qui concerne l'homme. J'aime bien cette lecture-là parce que on voit bien dans le Notre Père une partie qui parle de Dieu et de ce qu'il est et de ce qu'il fait, de ce que nous avons à apprendre de lui, et puis ce qui nous concerne, nous. Enseigne-nous, dit un disciple à Jésus, à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Cette introduction du Notre Père dans l'évangile de Luc, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples, est assez significative d'un disciple qui, en face de quelqu'un qui cherche à lui faire apprendre ce qu'est la relation entre l'homme et Dieu, Christ est venu pour cela, rétablir cette relation entre moi et mon Père. Il parle de relation et le disciple, lui, cherche à apprendre un comportement. Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a fait. Après tout, pourquoi nous, on n'aurait pas aussi un maître qui nous dirait comme Jean-Baptiste, comment prier ? Comme, là où Christ nous invite à entrer dans une dimension de vie, d'expérimentation, de relation, quelque chose de vivant, nous avons le réflexe de l'imitation. Ça, c'était le plus grand livre du Moyen-Âge, l'imitation de Jésus-Christ, hein, de Thomas à Kempis. Mais là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un des travers de l'homme. On est tellement prêt à imiter, à faire comme. Faire comme, ça nous permet d'échapper à nos propres choix. Ça nous permet d'éviter le fait de grandir soi-même, de s'interroger sur ce que l'on est, sur ce que l'on vit. C'est tellement plus facile de faire comme. Comme tout individu à l'adolescence, on a cherché à faire comme les autres, à s'habiller comme les autres, à calquer nos comportements sur les autres. Le problème de la dépendance au tabac est souvent lié au faire comme. Je veux faire comme les copains pour être accepté, intégré, plutôt que d'affirmer qui je suis en face d'un groupe, ce qui me poserait peut-être des problèmes, me mettrait en difficulté. Faire comme. Quand j'avais 13-14 ans, je portais les cheveux longs, j'avais un manteau à fourrure, en peau retournée avec de la fourrure sur le col, brodé en orange, en vert, en bleu, etc. Parce que c'était une manière de faire comme. Je me disais, voilà, moi je suis à la marge de la société, j'ai rien à faire avec ceux qui... Oui, je sais, vous avez du mal à imaginer. Mais si je vous disais comment était Michel à son adolescence, vous auriez aussi du mal. Il n'y a pas que moi. Et je suis certain que parmi vous, certains diraient, ah oui, si vous m'aviez vu quand j'étais jeune, quand je cherchais à faire comme. Ça fait partie de la démarche de l'individu. Suivre le troupeau, se justifier aussi parfois de ses propres erreurs en disant, mais on a toujours fait comme ça. Plutôt que de chercher à rentrer dans une relation et à trouver sa propre voie, son propre chemin. Et je me pose la question, est-ce que nous nous interrogeons assez souvent et régulièrement sur le chemin qui est le mien et que j'ai à suivre avec Dieu, plutôt que de faire comme dit le pasteur, ou comme est ma sœur, ou comme est mon frère, de calquer mon comportement, mes choix, mes convictions sur eux, plutôt que d'apprendre à côté de Christ quel est le chemin que j'ai à vivre, quelles sont les guérisons que j'ai à vivre, quelles sont les transformations que j'ai à vivre dans ma vie. Échapper en faisant comme à la nécessité de faire son propre choix. Vous savez quelle est la première fois où le faire comme est intervenu dans la vie de l'être humain sur la terre? Vous savez d'où cela vient, faire comme? Ou être comme? Ça vient dans le jardin d'Éden où le serpent ancien, l'adversaire a dit à l'homme et à la femme, « Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Comme des dieux. C'est la première fois où l'homme s'est dit, « Ah mais oui, prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est un super raccourci pour devenir comme des dieux. » Et on aime tellement prendre des raccourcis plutôt que de travailler et d'œuvrer à ce que Dieu attend de nous. La sanctification à laquelle nous sommes appelés n'est pas simplement la disparition de ce que je suis, mais le travail de mon âme afin de devenir ce que Dieu attend de moi, parce que c'est moi. C'est le devenir de moi selon le cœur de Dieu, la sanctification. Alors, plutôt que de prendre des chemins du faire comme, eh bien, Christ nous invite à rentrer dans une relation. Dans les lettres de Paul, on retrouve souvent cette question d'imitation, mais pas d'imitation raccourcie, pas d'imitation calque. On duplique comme une bonne photocopieuse. Je vais me transformer en chrétien comme le chrétien d'à côté. Je vais me photocopier. Non, il dit, ce qu'il vous faut imiter, c'est bien évidemment ce que nous vivons, car nous avons vécu parmi vous, dit Paul, mais c'est d'imiter Christ qui est en nous. Les enfants grandissent au début de leurs premières années par imitation. Ils regardent, ils reproduisent, ils refont. Noam a vu son père jouer de la guitare, donc quand à la fin de l'été, là, ils sont allés dans un magasin de jouets en disant bah, « choisissez un jouet dans tout le magasin qu'il y a là ». Il a dit à son petit garçon hey, « tu peux prendre un jouet, ce que tu veux ». Et puis il a fait la même chose en disant, alors sa petite fille, je ne sais pas si elle a compris, mais en tout cas, elle était tout de suite sur un camion en plastique avec un volant rouge, bleu, jaune, et elle a choisi ça, un peu plus d'un an. Elle s'est dit, bon, voilà. Mais Noam, il a fait tout le tour du magasin, Il y avait plein de jouets. Ce qu'il a choisi, c'est une guitare. Petite guitare. Parce qu'il a vu son père en jouer. Enfant, il est normal d'imiter. Mais lorsque nous devenons adultes, est-ce qu'il est bon pour nous de continuer à imiter ce qui nous entoure? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 11, « À ce sujet, dit l'auteur, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre. » Oula, c'est un auteur qui n'est pas froid aux yeux. Hein. Vous êtes difficiles à la comprendre, mes petits. « Alors que vous devriez depuis le temps être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin, non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est un tout petit. » Est-ce qu'il est bon de continuer à faire comme et à éviter de grandir en s'interrogeant sur le chemin, sur les expériences à vivre, sur les pas à accomplir? Je crois que l'Église n'a pas la dimension qu'elle devrait être ou avoir, simplement du fait que ceux qui la composent n'acceptent pas de grandir. Ah, il y en a, et je suis certain qu'au milieu de nous, nous sommes dans cette dynamique-là. Mais au niveau global, il y a cette tentation de rester, de faire comme, et de ne pas suivre le chemin de vie, de transformation que Dieu nous invite à avoir. Quand vous priez, dites « Père ». C'est une parole forte, « Notre Père », notamment dans la bouche de Christ. Je disais que le Shema Israël était la prière qui, je dirais, rythmait la vie de tous les Juifs chaque jour. Chaque jour. Et c'est une prière qui disait « Écoute, ô Israël ». J'ai l'habitude de dire c'est une prière qui descendait du ciel vers la terre. Et que lorsque le disciple demande à Jésus « Enseigne-nous à prier » et en l'invitant à rentrer dans une dimension d'imitation, comme Jean a enseigné, eh bien toi fais pareil, enseigne-nous à prier, qu'on puisse avoir quelque chose de solide et de concret. Eh bien Christ, j'ai envie de dire, propose une prière révolutionnaire. Le Shema Israël, c'est le Dieu élevé, lointain, vis-à-vis duquel il s'agit de faire des sacrifices, d'accomplir des sacrifices afin de pouvoir avoir le droit de s'approcher de lui. Et tout à coup, Christ semble abolir cette distance. Et j'ai envie de dire que pour ceux qui l'entourent, il est en train de donner une prière prophétique des choses qui vont s'accomplir dans les mois qui viendront. Quand la croix sera plantée à Golgotha, quand il acceptera d'y monter, d'y être crucifié, quand il sera tué et mis au tombeau et qu'il ressuscitera, la prière du Notre Père pour ceux qui l'entourent, pour les disciples, elle n'est pas encore réelle. Ils sont encore, même si Christ est là, la croix n'est pas encore plantée. Et pourtant, il leur dit, voilà, ce que vous allez pouvoir vivre, c'est dire une prière, vous direz, Notre Père. Alors, en pensant au Shema Israël, je me disais, mais Christ, pendant 30 ans, a certainement entendu Joseph et Marie réciter cette prière tous les jours. Il aurait pu reprendre en disant, mais écoute, oui, tu veux qu'on... Pourquoi pas reprendre le Shema ? Shema Israël. C'est celle qu'il a entendue. Et lui introduit une nouvelle dimension en disant, quand vous priez, dites Notre Père. Et c'est véritablement une parole et une prière révolutionnaire parce qu'il est en train de dire, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, désormais c'est possible. Tu peux t'approcher de ton Dieu et tu peux lui dire, mon Père, notre Père, parce qu'il va s'accomplir quelque chose dont vous n'avez pas idée, qui va transformer l'histoire des hommes, qui va rendre possible ce qui est impossible. Je l'ai entendu tout à l'heure dans une prière. C'était impossible et Dieu l'a accompli en Jésus-Christ. C'était révolutionnaire. Est-ce que ça l'est dans notre vie aujourd'hui? Est-ce que le fait de dire « mon Père », Notre Père est encore aujourd'hui une parole révolutionnaire dans ma vie, dans mon être intérieur. Pouvoir m'approcher de Dieu en lui disant « Tu es mon Père, parce que tu es celui qui me donne la vie. » C'est cela un Père. « Parce que tu es celui qui pose des limites, des repères, qui me structure, qui me permet d'acquérir la confiance de qui je suis et qui je peux devenir. Tu es mon Père. » Parce que tu me rends possible le fait de dire « notre Père », c'est-à-dire de vivre dans une communauté. J'ai besoin d'appartenir à une communauté. C'est le troisième niveau de la pyramide des besoins de Maslow. Le besoin d'appartenir à un groupe. Eh bien, Dieu l'a rendu possible. Faire en sorte que par Christ et en Christ, nous appartenions à un peuple ensemble. Tu es mon Père. Parce que tu es celui qui m'apporte l'amour dont j'ai besoin, qui m'apporte, je dirais, tout ce qui m'est nécessaire pour me construire. Est-ce que le Notre Père, ces deux petits mots, sont pour chacun d'entre nous aussi révolutionnaires que cela ? Si ça ne l'est pas, nous devons nous interroger sur l'impact du salut qui nous est accordé en Jésus-Christ. Vous savez, Je considère véritablement que l'on peut tout à fait se saisir du salut de Christ à la croix et dire « Je suis sauvé et mes péchés sont pardonnés », sans pour autant aller plus loin et découvrir le droit qui nous est acquis d'aller vers Dieu et d'entrer dans une relation avec lui de fils à père, de fille à père. On peut très bien s'arrêter avant. Alors, quand tu pries, est-ce que tu dis « notre Père, mon Père » dans cette perspective-là ? Le connaître. Christ nous renvoie à cette volonté de Dieu de se positionner dans notre vie comme un Père. Je raconte souvent cette anecdote personnelle. Quand j'avais 12 ans, un après-midi, après avoir été manger chez moi, je suis retourné au collège et je suis allé suivre un cours de géographie. Je n'aimais pas trop la géographie, je préférais l'histoire, mais bon, j'étais en géographie. Et puis la directrice frappe à la porte, vous savez, elle rentre et dit « Jean-Marc Cuancto, vous pouvez sortir ?» Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? L'homme ayant tout de suite une mauvaise conscience en se disant « j'ai dû faire une bêtise quelque part ». Et puis je sors de la classe tout penaud, 12 ans quand même, je ne savais pas trop. Elle me dit « Écoutez, votre père est dans l'infirmerie, il voudrait vous voir. » Je dis « Tiens, qu'est-ce qui se passe ? » Parce qu'on a mangé ensemble ce midi, il y a à peine une heure. Donc je descends les escaliers du collège, je rentre dans l'infirmerie, j'ouvre la porte, je vois un monsieur dedans, un monsieur asiatique qui était là, personne d'autre, mon père n'était pas là, je referme la porte, je vais voir la directrice pour savoir ce qui se passe. Puis le temps que je fasse le chemin entre l'infirmerie et le bureau de la directrice, tout à coup, je me suis dit, attends, un monsieur jaune, un peu bridé, mon père, lui, il est blanc, ça pourrait peut-être être celui qui m'a donné la vie. Tout à coup, je me suis dit, mais je ne l'ai jamais vu depuis l'âge de 1 an, ça peut pas être lui. Alors j'étais là dans le coin, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Je suis retourné à l'infirmerie, j'ai ouvert la porte, je suis rentré. Et vous savez, c'est la parole de Dark Vador dans Star Wars. Jean-Marc, je suis ton père. Sauf que je ne connaissais pas Star Wars à l'époque. Et tout à coup, j'ai pris en pleine face cette réalité d'un homme que je ne connaissais pas, qui était le père biologique que j'avais, et qui me rencontrait, qui voulait me voir pour la première fois 12 ans après ma naissance. Et là, je me suis dit, mais attends... Ça ne peut pas être mon père. Mon père, c'est celui qui me nourrit, qui m'élève, etc., depuis 11 ans en tout cas. Et j'ai été confronté à cette notion de père. C'est quoi un père ? Et il est venu en me disant, ben voilà, je t'ai amené quatre chemises et je voudrais que tu viennes avec moi. Je lui dis, bon, 12 ans après, c'est un peu dur de quitter sa famille, ses frères et sœurs. Et j'ai dit, ben non, je ne peux pas parce que vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes pas celui qui m'aime. Depuis mes plus lointains souvenirs. Vous n'êtes pas celui qui a joué avec moi, qui m'a regardé vivre, etc., etc. Vous n'êtes pas mon père. On l'a retrouvé, je crois, presque 15 ans après notre mariage, quand notre fils est venu. On l'a invité pour faire connaissance et se découvrir. Mais là, pour moi, c'est poser la question de qui est mon père ? Qu'est-ce qu'il est ? Et très étrangement, je me suis rendu compte aussi que dans ma conception de Dieu comme un père, j'avais tendance à limiter Dieu dans sa position paternelle vis-à-vis de moi, parce que j'avais une mauvaise compréhension de ce qu'était un père. Mon père. Ça peut être difficile de faire confiance à un Dieu paternel quand on a peut-être appris à grandir seul, à se débrouiller seul, à vivre en mettant une certaine distance, etc. Et pourtant, c'est ce à quoi nous invite notre Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, dit Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 15, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père, Abba Père ». Est-ce que cet esprit d'adoption crie en vous maintenant « Adieu, Abba, mon Père, Abba, mon Père ». Où est-ce que nous avons besoin là aussi d'entrer dans cette dimension tout à nouveau ? Comment dois-tu prier dans ton cœur, dans ta vie ? Eh bien, en osant dire « Abba, mon Père ». Ce qui veut dire aussi un cortège de relations, de vécu, de moments avec lui. Ce premier père biologique ne l'était pas parce qu'il n'y avait pas eu de temps et de relations. Et je me souviens que quand j'avais 6 ans, celui qui est devenu mon père est rentré avec ma mère dans une cuisine où on habitait. Et ma mère a pris un ton très solennel en disant « Jean-Marc ». J'avais 6 ans, je me dis « Oh, là aussi, qu'est-ce qui va se passer ?»« Jean-Marc, est-ce que tu veux bien l'appeler papa ?» Pendant 6 ans, je n'avais jamais appelé quelqu'un papa. C'est merveilleux comme mot. J'aime bien quand je suis dans une communauté avec des frères, vous savez, tziganes, qui disent souvent « papa hein ». Abba, c'est la même forme. Hein, c'est la forme hébraïque, me semble-t-il, de papa. Ça veut dire autre chose que père avec une distance. Est-ce que tu veux bien l'appeler papa ? Et moi, j'étais là à 6 ans et demi, en me disant « waouh, c'est énorme ça. Je peux appeler quelqu'un papa ? J'ai le droit ?» Alors j'ai dit oui, du haut de mes 6 ans. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. De la même manière que bien des années après, ça a changé ma vie de pouvoir dire à Dieu « Abba, mon Père ! Mon Père !» Est-ce que nous sommes prêts à rentrer là-dedans, dans cette nouvelle relation ? Parce que c'est pour cela que Christ est mort à la croix. Pas simplement pour enlever nos fautes, nous rendre acceptables et avoir la vie éternelle, mais pour pouvoir rentrer dans une relation avec Dieu de cette nature-là, jour après jour. Que ton nom soit sanctifié. Ça, j'ai mis longtemps dans la prière du Notre Père à comprendre ce que ça pouvait. Comment je peux rendre saint le nom de Dieu ? Toute l'Écriture dit que Dieu est saint et qu'il est tellement saint qu'il est impossible, quelque part, de le toucher. Souvenez-vous de cet épisode où l'Arche de l'Alliance est portée sur un chariot, ce qui était interdit, que le chariot brinque-balle et que l'Arche manque de basculer, qu'un prêtre ou un soldat vient empêcher l'Arche de tomber et meurt foudroyé parce que Dieu est saint et qu'il était interdit de toucher la sainteté de Dieu. Comment la prière que Christ nous propose suit en disant « Que ton nom soit sanctifié », c'est-à-dire rendu saint. Comment je peux rajouter de la sainteté au nom de Dieu ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce que je peux améliorer la sainteté de Dieu ? Et en fait, ce qui m'a aidé à comprendre le sens de ce passage « Que ton nom soit sanctifié », c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5, verset 16, il est écrit « L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. » sera sanctifié par la justice. Ézéchiel dira, lui, pour sa part, au chapitre 20, verset 41, « Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. » Ce qui sanctifie le nom de Dieu, c'est à la fois la justice que nous manifestons dans notre vie, la transformation qui glorifie Dieu et le sanctifie. C'est-à-dire la manière dont le salut dans notre vie transforme notre être tout entier et fait que nous puissions, je dirais, faire retour à Dieu par la justice, sa justice dans nos vies, de ce qu'il est. Parce que quand les autres regardent le peuple de Dieu, alors ils peuvent dire, oui, on voit sur eux la sainteté de leur Dieu. Il s'agit donc de vivre et d'accomplir la justice là aussi de Dieu dans notre existence, dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié par ce que je suis, par les choix que je fais, par les chemins que j'emprunte, par les décisions que je prends, par ma manière d'être en relation avec l'autre. Et on le verra dans la deuxième partie, peut-être pas ce matin, mais en tout cas, on le reverra à un autre moment. C'est aussi par ma manière de vivre le pardon. Dans le Notre Père, cette dimension-là est importante. Je peux sanctifier le nom de Dieu dans la mesure où, étant pardonné, je pardonne aussi. Est-ce que cela est présent dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à rentrer dans cette dimension-là? Souvent, lorsque une patiente de l'établissement où je travaille quitte l'établissement, elle a fait tout un chemin pendant 3 mois, 4 mois pour se débarrasser de sa dépendance à l'alcool, aux drogues, etc. Et quand je les reçois dans la dernière semaine de leur temps de présence, je leur dis, mais voilà, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du travail à accomplir pour que vous puissiez continuer à maintenir les positions qui sont les vôtres et à vous réapproprier votre vie et à faire exister et devenir tout ce qu'il y a en vous en demeurant dans l'abstinence, la non-consommation des produits. Et souvent, elles me disent « Waouh, il y a du travail !» Oui, il y a du travail. Parfois, il serait bon qu'on puisse se dire aussi à nous-mêmes « Waouh, il y a encore du travail pour que ma vie glorifie Dieu, pour que ma vie sanctifie le nom de Dieu, fasse retour vers Dieu par cette justice qui s'accomplit dans ma vie, dans tous mes actes et toutes mes paroles. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. » Le jugement est tombé en Jésus-Christ. Dieu est glorifié, le Père est glorifié par ce que le Fils a fait pour moi, dans ma vie. Mais il sera aussi sanctifié par l'œuvre que j'accepterai, que l'Esprit accomplisse dans mon existence. On a chanté un petit chant tout à l'heure, en introduction de ce culte, c'est pour que le nom se transforme en oui, devienne un oui. Pour que tous les noms que nous posons dans notre existence, de non-transformation, de non-guérison, de non-sanctification, deviennent des oui dans notre vie. Et nous savons très bien où sont les noms. Nous pouvons continuer à faire semblant, mais Dieu nous a envoyé l'Esprit afin que tous les noms qui sont dans notre existence se transforment en oui. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce chemin? Que ton règne arrive. Alors, que ton règne arrive, c'est... Dans l'évangile et dans la prière, que ton règne arrive juste avant notre pain, notre péché, etc. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je m'arrêterai sur ce verset parce que j'aime beaucoup cette césure qu'il y a dans notre Père avec ta volonté sur la terre comme au ciel. Dieu, la volonté de Dieu dans le ciel, elle s'accomplit à 100% dans le ciel. La volonté de Dieu sur la terre, elle passe par ce que nous acceptons de vivre avec lui, individuellement et collectivement. La prière du Notre Père, c'est ceci. Que ton règne vienne. J'aime beaucoup, parce que Laurent, souvent, quand il prie, il termine toujours. Alléluia, tu reviens. Et je voudrais qu'on soit vraiment saisi, rempli de cette certitude. Christ revient, vous savez. Christ revient. C'est une évidence. On n'a jamais été aussi près de son retour. Amen. Parfois, je me demande si on en a vraiment conscience. Est-ce que nous travaillons tous les jours en nous disant « Je dois travailler comme si j'avais toute la vie devant moi » et en même temps, je dois travailler en me disant « Christ revient ». Alors, il y a des fois, quand j'ai des projets personnels qui me tiennent à cœur, je dis « Pas tout de suite, Seigneur, parce que j'aimerais bien arriver au bout. J'aimerais bien vivre la retraite, parce que j'ai travaillé. » Je ne dis pas que je serais mécontent si le Christ revenait avant que je prenne ma retraite. Mais je dis, c'est bête d'avoir travaillé toute sa vie de ne pas en profiter. Bon, vous me direz, j'aurai l'éternité pour. D'accord. Mais être habité de cette conscience, le Seigneur revient bientôt. Amen. Et j'en m'en réjouis, quels que soient mes projets de vie, ce que je vis. Mais en même temps, que ton règne vienne, ce qui suit derrière, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est cela qu'il faut lire. Et la volonté de Dieu dans le ciel est totale, pleine, entière. Est-ce qu'elle est aussi pleine et entière sur cette terre ? Non ! Évidemment, non ! Parce que Dieu se rend tributaire de ce que nous sommes. C'est une incompréhension. Et en même temps, c'est le miracle de la grâce de Dieu. S'il n'avait pas, dès le début, choisi que l'homme ait la possibilité de choisir lui aussi entre lui, Dieu, et la liberté de faire comme il veut, de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il nous avait contraints, voilà, vous ne pouvez pas manger, ça aurait été beaucoup plus simple. Et sur la terre, comme au ciel, ça aurait été réglé. Dieu aurait accompli sa volonté. Mais l'amour de Dieu pour l'homme et la grâce qu'il a pour nous fait qu'il a voulu un homme libre de choisir. Aujourd'hui encore, comme au jardin d'Éden, nous pouvons faire que sa volonté ne s'accomplisse pas sur notre terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Nous pouvons faire en sorte que sa volonté ne s'accomplisse pas dans notre vie. Et c'est cette césure-là entre ce qui est du ciel, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne à toi vienne, que ta volonté à toi soit faite. Et cette césure, ce qui est au ciel et qui s'accomplit, que ça s'accomplisse aussi dans ma vie. Et nous pouvons être participants à l'œuvre de Dieu dans la mesure où nous sommes dans le désir, la volonté, le choix que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Ça commence par là. J'écoute les discours politiques à l'heure actuelle. J'écoutais les discours écologiques dernièrement. On n'a jamais eu aussi chaud. On le sait, on entend parler des responsabilités de l'homme sur la création, des conséquences qu'il y a déjà et qu'il y aura encore. Et pourtant, j'écoutais un écologiste convaincu, qui est Nicolas Hulot, et qui disait « Mais tout dépend de la volonté de l'homme. C'est sa volonté qui fera la différence ou pas. » Il ne faisait que reprendre cette parole du Notre Père, que ta volonté soit faite sur ma terre. Et quand on dit sur ma terre, ce n'est pas simplement la terre de ce pays, mais sur la terre de ma vie. Que ta volonté soit faite sur cette terre-là, comme elle est faite au ciel. Je te donne ce droit-là, Seigneur. Je te donne cette possibilité-là, accomplis ta volonté. Nous avons chanté, Seigneur, que les noms puissent se transformer en oui. Nous relisons cette prière que tu as laissée, ce droit de pouvoir appeler Dieu notre Père, collectivement, mon Père individuellement. Nous avons ce désir, Seigneur, que notre vie glorifie et sanctifie ton nom. Entendre ta parole, c'est aussi prendre position. Nous connaissons, Seigneur, tous les noms qui empêchent ton œuvre de s'accomplir. Nous connaissons tous les noms qui nous freinent et les pourquoi. Pourquoi nous les maintenons comme des portes fermées qui empêchent ton esprit d'agir. Nous voulons relire cette prière et la dire de tout notre cœur. Te dire, Seigneur notre Dieu, que tu es celui que nous voulons accueillir pleinement et entièrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous pouvez le dire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Merci Jean-Marc. Est-ce que je peux demander un coup de main à Laurent?